Les podcasts de Nouvelle Acropole France. La sagesse des bâtisseurs de cathédrales. Conférence de Didier Carrier, philosophe, à Lyon en 2005.
La première activité de ce cycle est un peu atypique parce qu'elle va m'obliger à partager en deux pour faire une introduction générale et resituer le contexte général des cathédrales, vous expliquer aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité faire un rapprochement entre le temple égyptien et la cathédrale, et donner quelques repères historiques de base qui sont, de mon point de vue, indispensables pour comprendre le phénomène civilisateur que représente la cathédrale au cœur du Moyen Âge. Puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, c'est un revirement radical des mentalités qui intervient avec l'apparition d'une construction qui est vraiment le centre de la cité et qui est une présence qualifiante du point de vue architectural pour l'ensemble de la structure et l'urbanisation de la cité médiévale. Alors, je vous ai mis au tableau quelques dates rapidement jetées, ne m'en veuillez pas si je ne suis pas trop rentré dans le détail, mais disons synthétiquement, elles vous donneront une idée de comment se situe l'époque des cathédrales et l'expérience qui nous intéresse dans un phénomène très large que les spécialistes appellent le Moyen-Âge et qui dure à peu près 1000 ans, entre 500 et 1500. Voilà. Dans cet intervalle de 1000 ans, c'est juste une tranche très courte qui va grosso modo de 1130 à 1280 qui nous intéresse. Non pas que le reste ne nous intéresse pas, loin de là, mais disons que le phénomène de la cathédrale, le phénomène du gothique en tant que style architectural, va se manifester dans sa pleine ampleur. Donc on va faire une espèce de zoom, si vous voulez, très précis sur cette période-là. Et plus particulièrement, la période de 100 ans que j'ai indiquée ici entre, disons, grosso modo, ce qu'on considère comme étant l'apparition du gothique, 1130, et l'apogée, disons, qui est communément considéré comme l'apogée du gothique. Apogée non pas en termes de réalisation, mais en termes d'étude et de compréhension du phénomène architectural. Puisque, comme vous voyez, le flamboyant qui commence grosso modo vers 1400, avec la fin de certains grands édifices, constitue un aboutissement dans l'aspect formel, dans la concrétisation. Mais tout ça est le résultat d'un travail de recherche, d'étude, et aussi d'un travail intérieur des architectes de l'époque. Donc voilà, en guise de très rapide introduction. C'est un phénomène difficile à synthétiser en peu de temps, donc ne m'en veuillez pas si je fais des raccourcis, et je compte bien sur vos questions et votre acuité pour tout à l'heure approfondir, si c'est nécessaire, les points que vous jugerez utiles. Donc, très schématiquement, le rapprochement que je fais entre la cathédrale gothique et le temple égyptien coule quasiment sous le sens au regard du phénomène de la cité que d'une certaine manière la cathédrale conditionne autour d'elle. On en parlera en détail tout à l'heure, mais disons qu'en Égypte, le temple égyptien constitue le cœur de la cité. L'ensemble de la structure vivante est construite autour du temple, qui d'une certaine manière sert à la fois de repère chronologique et spatial pour le développement et l'urbanisation, et grosso modo pour tous les actes significatifs de la vie humaine. Le phénomène va se reproduire à l'identique dans la période qui nous intéresse. Mais évidemment, les conditions de réalisation ne sont pas les mêmes. Par contre, pour comprendre l'arrivée du phénomène lui-même, il faut resituer la période entre, grosso modo, la fin de l'Empire romain d'Orient et d'Occident et ce qu'on appelle, nous, la Renaissance, c'est-à-dire, grosso modo, la fin du XVe, début du XVIe siècle. Voilà. Dans cette période-là, il se passe un certain nombre de bouleversements très importants, dont la première partie du Moyen-Âge fait les frais dans une phase très obscure, qui est relativement bien connu malgré tout, grâce à l'archéologie notamment, mais qui n'est pas très bien assimilé, notamment dans la transmission de l'histoire, hein, qui n'est pas, il faut bien le reconnaître, une matière très à la mode, et ça n'aide pas beaucoup pour comprendre l'histoire des mentalités et se situer, même y compris dans le XXIe siècle. Quand l'Empire romain s'écroule, l'Occident, dans sa quasi-totalité, tombe dans un âge très sombre, puisque les structures de l'institution romaine, avec tous leurs défauts, avaient quand même un certain nombre d'avantages, qui étaient notamment d'entretenir et de maintenir les voies de communication dans la quasi-totalité de l'Europe. Les célèbres voies romaines et les célèbres ports fluviaux romains, dont on a découvert les grands avantages encore en construisant le parking Saint-Georges il y a peu de temps, ces voies romaines de circulation, fluviale ou terrestre, permettaient de maintenir un contact permanent entre, disons, différentes parties du monde européen, en drainant à la fois des marchandises, pour l'aspect très concret, mais aussi des connaissances et une certaine ouverture sur le monde. C'est-à-dire que, grosso modo, pour le paysan gallo-romain, du moment de la chute de l'Empire romain, le monde ne s'arrêtait pas à la colline de droite, à la colline de gauche et le fleuve qui était devant son village. Il savait que le monde existait sous d'autres formes que la proximité directe de son mode de vie. Cette perception du monde, qui, comme vous pouvez vous en douter, a des répercussions beaucoup plus larges au titre de la collectivité, va s'écrouler complètement avec la disparition des voies romaines par perte d'entretien et la disparition du mode d'échange commercial à travers les voies fluviales. Donc, la vision du monde très ouverte et très large représentée par l'Empire romain va céder la place à une conception de l'univers extrêmement étriquée dans laquelle les repères géographiques sont très limités et qui donc, d'une certaine manière, va aboutir à l'image de l'homme roman, qui est tout simplement la traduction dans l'architecture de la basilique romane, c'est-à-dire très peu ouverte sur le monde et contenant une image de la réalité extrêmement étriquée et restreinte, bien que très en couleur. C'est-à-dire que le salut va être traduit à travers la vie intérieure, beaucoup plus qu'à travers la vie terrestre, dans le mode d'expression roman, et, disons, le monachisme en tant que forme de recherche spirituelle va battre son plein pendant toute cette période. Grosso modo, de 500 à la 1000, on est dans la phase de développement de la vie monacale et de l'idéal de vie du moine. Quand on veut se soigner, on va au monastère. Quand on veut étudier, on va au monastère. Quand on veut se réchauffer, on va au monastère. Bref, tout le secours représenté par les déficiences de la vie terrestre et l'adversité va être focalisé sur le monastère. Et, disons, ce qui lui est attenant, c'est-à-dire la basilique en tant que représentation de l'institution religieuse. Donc, quand on va passer au monde gothique, on va voir évidemment apparaître la cathédrale, en tant qu'institution, d'abord parce que ce n'est pas un mode architectural, la cathédrale, mais tout simplement la concrétisation formelle du siège de l'évêque, cathédra, le siège. Donc c'est le centre de l'évêché, déjà. Donc c'est le mode de vie diocésain qui se construit tout autour. Chose qui existait, mais de manière très informelle avant. Mais c'est surtout la concrétisation et l'aboutissement d'un changement de mentalité, c'est-à-dire de perception du monde. C'est pas l'architecture qui modèle la pensée, comme vous pouvez vous en douter, c'est bien la pensée qui modèle l'architecture. C'est-à-dire, on va produire, grâce à l'avènement de la cathédrale, une forme d'expérience anthropogénétique, si on peut l'appeler comme ça, qui est une véritable transformation de la perception que l'homme se fait du monde dans la période. Alors, évidemment, quand le phénomène émerge historiquement, on peut pas avoir là, simplement, l'expression d'une forme spontanée de développement. Hein. Si on dit, en 1130 apparaît la première manifestation de l'ogive gothique, ça se schématise un peu comme ça, ben, c'est pas une espèce de germination spontanée. C'est un résultat qui, encore une fois, ne se concrétise du point de vue architectural que parce qu'un certain nombre d'individus ont produit en eux-mêmes les transformations intérieures qui vont devenir communicables à travers une forme d'expression qui sera, grosso modo, l'art au sens large, à travers le canal de la religion, puisqu'on ne peut pas strictement réduire le phénomène à l'architecture, il faut aussi prendre en considération la musique, dont je parlerai un peu tout à l'heure. Donc voilà comment se situer. Donc, si on dit aujourd'hui le Moyen-Âge arrive à une apogée avec le gothique, ben, c'est l'homme roman qui va vivre un certain nombre de transformations pour devenir l'homme gothique. Alors, quelle est la transformation qui se produit ? Très schématiquement et surtout symboliquement. Ben, l'image n'est pas très belle, celle que je vais vous donner est un peu tirée par les cheveux, mais imaginons qu'on retourne une chaussette, et que, évidemment, quand on retourne la chaussette, ce qui se trouvait à l'intérieur va se trouver à l'extérieur et vice-versa. Grosso modo, la cathédrale gothique, c'est une basilique romane retournée vers l'extérieur. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, tout simplement, la vie colorée qu'on va retrouver dans la basilique romane va disparaître complètement dans l'intérieur de l'édifice gothique et sera largement remplacée par les verrières en tant que forme de présence de la couleur. Mais par contre, l'ensemble des constructions gothiques seront polychromes à l'extérieur. Entièrement polychrome. Et c'est très difficile à imaginer pour nous parce qu'on a l'habitude de voir, d'une certaine manière, les restes de tout ça, exactement comme d'ailleurs on voit les restes des temples égyptiens qui ont perdu toutes leurs couleurs, alors qu'eux aussi étaient colorés entièrement à l'extérieur. Donc, le même phénomène se produit à l'intérieur de l'homme. Le monde de vie roman, entièrement tourné vers l'intériorité, ayant comme repère fondamental le mode de vie monacal, la recherche intérieure et le salut passant par cette forme d'isolation, hein, disons, par la prière, grosso modo, la contemplation en tant qu'idéal de vie, va devenir, avec le gothique, un tout autre idéal de vie basé sur l'extériorisation, l'expression et l'ouverture des œuvres vers le monde, qui, en même temps, voit se développer le pèlerinage, les croisades, c'est-à-dire toutes les formes de déplacement de masse qui vont exactement coller à l'image du gothique, c'est-à-dire de vie extérieure comme voie de recherche de salut. Donc voilà, très schématiquement, comment bascule le phénomène de l'homme roman idéal de vie contemplatif à l'homme gothique idéal de vie de l'action, de la concrétisation. Là-dedans, entre les deux apogées, si vous voulez, apparaît un personnage clé qui est le maître d'œuvre, l'architecte, dont le rôle dépasse largement le cadre strict de la construction de l'édifice. Il va, d'une certaine manière, être au centre du développement d'un certain nombre d'expériences religieuses, mystiques et scientifiques qu'il va avoir la dure tâche d'administrer et de développer. Un certain nombre de manuscrits médiévaux donnent des éléments très précis sur la condition d'architecte dans la période qui nous intéresse, en le mettant en relation avec le grand architecte de l'univers, puisqu'il est cité dans ces manuscrits médiévaux, Dieu en tant que grand architecte de l'univers, et d'une certaine manière en représentant l'architecte comme une hypostase, c'est-à-dire une prolongement de Dieu pour réaliser ses œuvres dans le monde. Une forme de démiurge, si vous voulez. Ce démiurge va apparaître dans sa plénitude au moment de ce qu'on va appeler les écoles des cathédrales, qui sont les grands centres de développement du savoir et du vécu du Moyen-Âge gothique. Il en existe deux les plus connus, qui sont l'école de Notre-Dame et l'école de Chartres, qui évidemment vont de pair avec la construction de ces deux grands édifices, mais ne sont pas, dans leur action, limitées à la construction, puisque ce sont des écoles à proprement parler, qui ne sont pas réservées à une élite de lettrés, mais qui sont largement ouvertes sur le monde, puisque on compte à Paris, aux alentours de l'époque de Notre-Dame, disons de l'école de Notre-Dame, à peu près 5000 étudiants, sur une population de 200 000 habitants. Ce qui, pour l'époque, est très très important. Et ces étudiants participent largement de l'école de la cathédrale et vont évidemment concourir au développement de la fameuse Sorbonne, puisque je vous rappelle que la faculté de la Sorbonne va naître à cette époque-là comme une concrétisation du développement de ce que sont les facultés, c'est-à-dire une espèce de décomposition des formes du savoir dans un certain nombre de facultés. Parallèlement vont naître en même temps les collèges, qui sont aussi des formes de développement de l'acquisition du savoir et du vécu. Donc vous voyez l'image négative du Moyen-Âge comme une époque où on va maintenir l'homme dans la bêtise, dans l'ignorance, de façon à pouvoir lui inoculer une version dogmatique de l'existence, s'écroule complètement. Parce que dans cette époque-là, il n'y a jamais eu autant de moyens de transmission du savoir. Et en fait, quasiment, la forme laïque de l'accès à la connaissance va se développer dans ce moment-là. Je vais faire une boutade, mais on va dire que la laïcité, en tant que forme d'acquisition du savoir, est née en plein Moyen-Âge gothique. Et ça, c'est très important à comprendre pour se situer dans une vision du Moyen-Âge très largement colorée d'idéologie moderne, qui a entièrement vidé le Moyen-Âge de son contenu et spirituel et scolastique. Donc, ça remet évidemment beaucoup de choses en cause dans la perspective de ce que sont les écoles de cathédrale en tant que véritablement moyen d'impact civilisateur sur la société médiévale. Donc, on peut parler de sagesse des bâtisseurs dans cette perspective-là. Alors, évidemment, il faut s'entendre sur qu'est-ce que c'est qu'une sagesse. On va prendre comme modèle tout simplement le mot de grec classique, c'est-à-dire une sagesse traduite en termes à la fois de savoir-être et de savoir-faire. Deux choses concourantes, savoir-être et savoir-faire. Et c'est dans cette logique-là que je développe l'idée de la sagesse des bâtisseurs et pas dans une autre. Savoir-être et savoir-faire. Pour les classiques grecs, qui vont très largement inspirer le Moyen-Âge roman et gothique, pour Platon dans un cas et pour Aristote dans l'autre, la sagesse se traduit sous cette forme. C'est-à-dire qu'un sage vu à travers les classiques, c'est pas seulement quelqu'un qui peut prétendre à une connaissance et à une vie intérieure, mais c'est quelqu'un qui est capable, par ses comportements, de modifier son environnement. C'est donc tout sauf un intellectuel, hein, puisqu'il est capable de modifier son environnement. Et la sagesse médiévale se mesure dans cette logique-là, c'est-à-dire par la faculté des bâtisseurs, au sens large, d'agir sur leur environnement pour le modifier, évidemment en l'améliorant, parce qu'on peut aussi le modifier en le détruisant, mais ça n'a pas du tout été le cas en ce qui les concerne. D'autres s'en sont chargés. Donc, voilà comment on doit comprendre la sagesse des bâtisseurs et comment cette sagesse va servir de cristal autour duquel vont se rassembler tous les gens en quête et en recherche à travers les écoles de cathédrale et tous les modules de transmission qui vont en découler dans ce que deviendront les confréries et les ordres de chevalerie qui ont strictement la même origine. Puisque l'école de cathédrale est l'expérience concrète de la naissance des moyens d'acquisition de manière initiatique d'un vécu intérieur qui va se concrétiser plus tard, une centaine d'années plus tard, à travers les ordres de chevalerie médiévaux et les ordres de constructeurs au sens large. Donc voilà pourquoi il faut situer cette période comme une charnière, parce qu'elle va produire un impact très important sur les comportements, et en même temps, à travers la cathédrale comme un livre de pierre, permettre de transmettre des connaissances pour l'ensemble d'une population, qu'elle soit lettrée ou qu'elle ne soit pas lettrée. Pour lire une cathédrale, il n'est pas nécessaire de connaître le latin. On peut regarder des vitraux, on peut lire les sculptures, on peut regarder les ronds de bosse, on peut voir les panneaux, et donc on a accès de manière symbolique, c'est-à-dire d'une manière plus ou moins rationnelle, à un certain nombre de connaissances qui ont un pouvoir d'action intérieur immédiat. Donc voilà pourquoi on peut parler de sagesse des bâtisseurs, et voilà pourquoi cette expérience que je qualifie d'anthropogénétique, c'est-à-dire ayant trait au développement de l'espèce humaine elle-même, a une si grande importance et doit être autant inspiratrice pour notre époque, qui d'une certaine manière est un nouveau Moyen-Âge. Malheureusement, pas très gothique pour le moment. Disons, gothique pour certaines dans une forme assez dégénérée. Pour faire référence à la musique actuelle dite gothique. Si vous en connaissez quelques traits, ça vaut la peine. Donc voilà, pour se situer rapidement sur le phénomène. Alors, on va procéder par étapes. Comme j'ai dû faire une introduction, somme toute assez longue, je vais vous situer d'abord avec des images la relation à établir rapidement entre la cathédrale gothique et le temple égyptien pour comprendre comment un corpus d'idées est peut-être totalement indépendant d'une époque et de circonstances de vie. Puisque la même idée, vous allez le voir dans les images, c'est immédiat, la même idée va se transposer dans une forme et dans un mode d'expression différent. Ensuite, on va parler de la géographie sacrée. Ne m'en veuillez pas si ce ne sera pas le centre du débat, bien que ce soit le titre de l'activité, mais je ne peux pas faire l'économie de l'introduction. Et évidemment, je suis à votre disposition dans la deuxième partie pour répondre le plus largement possible aux questions sur ce sujet-là en particulier. Donc d'abord, la relation avec le temple égyptien et dans un deuxième temps, la géographie sacrée. Pour vous donner un exemple visuel d'un temple égyptien ptolémaïque, c'est le temple d'Edfou, vu en plan au sol, alors, qui est un temple évidemment tardif par rapport à la grande époque de l'Égypte, ptolémaïque, deuxième siècle, disons, mais schématiquement, l'époque ptolémaïque a le gros avantage, grâce à la restitution des Ptolémées, de reconfigurer l'ensemble du modèle architectural égyptien, c'est-à-dire que les Ptolémées ont fait un travail énorme de compilation pour faire un temple strictement identique aux époques primitives. Et grâce aux Ptolémées, on a la chance d'avoir à Dendera et à Edfou des modèles de temples qui étaient les formes archaïques de l'époque tinite, c'est-à-dire des tout premiers temples égyptiens aujourd'hui totalement disparus. Donc voilà ce qu'est un temple égyptien. Alors ça se résume comment ? L'entrée est ici, je schématise, et la statue du dieu est là. Naos, défini par les Grecs, disons la chapelle du Nil. Le temple égyptien, c'est toujours une orientation est-ouest, sauf dans certains cas très particuliers dont on ne va pas parler. L'entrée est à l'ouest, face au couchant, et évidemment la statue divine représente l'émergence de la lumière à l'est. L'entrée est flanquée par deux énormes pylônes, qui sont des massifs de maçonnerie fait en briques crues, recouvert de pierre, c'est-à-dire creux, mais rempli de terre, recouvert de pierre, qui vont être flanqués de deux ou quatre mâts qui portent des oriflammes qui ressemblent énormément aux oriflammes médiévaux, qui représentent les couleurs symboliques de la divinité. Quand on passe la première porte, avec ces deux énormes massifs maçonnés, on rentre dans une cour carrée, à ciel ouvert, bordée de colonnes, qui, elle, donne accès à une deuxième porte, qui est la première partie fermée du temple, qu'on appelle la salle hypostyle, qui offre l'avantage d'avoir un toit ajouré, c'est-à-dire on passe du plein soleil à une zone mi-ombre, mi-lumière, une espèce d'intermonde, mi-ombre, mi-lumière. Grâce aux ouvertures pratiquées dans la toiture et dans les murs, les rayons du soleil vont venir frapper les hiéroglyphes et les scènes qui sont sur les murs et leur donner vie, c'est-à-dire les déclinaisons solaires du jour n'étant pas les mêmes et dans l'année non plus, la tache de lumière va se déplacer verticalement et horizontalement au fil des heures pour venir marquer et activer les images magiques, les images prophylactiques qui d'un coup deviennent vivantes et racontent une histoire. Tout ça se passe dans la salle hypostyle. Enfin, troisième porte, l'ensemble des chapelles fermées, dans laquelle on va trouver toujours trois chapelles principales et un certain nombre de chapelles secondaires. Dans la chapelle centrale se trouve la statue du dieu. C'est le monde cloîtré fermé, aucune ouverture, univers seulement accessible à la vue spirituelle. Pas de lumière. Alors qu'ici, nous sommes dans ombre-lumière, ici, nous sommes dans pleine lumière. Voilà ce que c'est qu'un temple égyptien, très rapidement. Au fur et à mesure où on avance vers la statue divine dans l'axe, le sol s'élève, le plafond s'abaisse, les murs se rapprochent, figurant un point dans l'horizon, comme un obélisque couché. Imaginez l'obélisque couché. Les murs se rapprochent, le plafond, et on figure un point à l'horizon, qui représente l'émergence de la lumière, qui représente aussi, évidemment, l'origine de l'influx divin qui va activer le monde de l'est vers l'ouest. Voilà le temple égyptien. Hop, on passe à la cathédrale. Chartres. Pourquoi Chartres? Parce que, époque, disons, très importante du développement, du gothique rayonnant au gothique flamboyant. Voilà, on est dans cette période-là. Passage du gothique rayonnant au gothique flamboyant. Apogée de la perspective et de la vision de la cathédrale. Le plan de la cathédrale, la structure en est quasiment finalisée, elle n'évoluera plus. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit deux tours, étonnant, n'est-ce pas? Un axe est-ouest, bon, c'est pas tout à fait le cas pour Chartres, mais il y a des tas de raisons. Une partie très largement éclairée par des verrières, très proche de l'idée de la cour carrée de tout à l'heure, un transept très proche de l'idée de la salle hypostyle, c'est-à-dire un rectangle plus large que long, exactement comme tout à l'heure vous l'avez vu la salle hypostyle, et une région naos avec 1, 2 et 3 chapelles, ou figuration des chapelles, c'est-à-dire les trois rayons divins, les trois formes, disons, d'apparition de la divinité développée par le philosophe médiéval Saint-Augustin, c'est-à-dire la perception, disons, de la vision ternaire du divin, exactement comme les Égyptiens l'avaient déjà préfiguré. Alors voilà, je fais un petit retour en arrière pour que vous voyez bien. Ça va bien marcher. Voilà, temple égyptien. Hein, vous avez bien vu, hop, cathédrale. On peut les superposer. Alors, évidemment, aucun architecte du Moyen-Âge n'a vu un seul temple égyptien de manière directe. de manière directe. On peut se poser la question si, par contre, un certain nombre de documents, de descriptions et d'éléments n'ont pas transité bien avant la première croisade, 1095, qui est, avec la première croisade, la première grande confrontation ou retour de confrontation entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale, et donc le Proche-Orient. Donc, bien évidemment, la structure dont je vous parle existe aussi en partie dans la basilique romane, en partie seulement, disons dans la fin du Moyen-Âge romain, mais pas au début. Mais disons qu'il y a des faits troublants qui permettent d'associer les deux phénomènes, et surtout dans la compréhension de l'usage de la lumière, telle qu'elle est faite à travers les verrières, puisque la forme d'animation et de mise en vie du temple chez les Égyptiens va se faire de la même façon avec les verrières et les rosaces dans le monde gothique médiéval. Donc c'est très surprenant. Sans tirer aucune conclusion hâtive, on peut simplement constater la superposition possible des deux formes de construction, et c'est exactement la même chose dans l'élévation. Je ne vais pas le développer aujourd'hui, ce sera l'objet de la suite, mais dans l'élévation du temple égyptien, on va trouver la même structure tripartite et la même perception, qui est, à proprement parler, reprise par, disons, la philosophie platonicienne et les néo-platoniciens, néo-pythagoriciens, qui vont en fait donner le début de la philosophie médiévale, hein, puisque depuis Saint-Augustin jusqu'à Saint-Thomas d'Aquin, toute l'inspiration de la philosophie médiévale, elle vient des Porphyre, des Jambyques, en fait des néo-pythagoriciens, des néo-platoniciens, de Plotin aussi, pour donner une perspective plus large. Donc, il y a une continuité complète du savoir, de la connaissance et du vécu entre l'époque classique, qui est l'époque d'Alexandrie pour ce qui est être des temples ptolémaïques, et l'école philosophique d'Alexandrie, et les écoles de cathédrale. D'une certaine manière, l'idéal de la cité d'Alexandrie, avec ce qu'on appelait les néo-platoniciens, va se transposer sous une autre forme d'expression dans le modèle urbain médiéval, à travers notamment la cathédrale. Donc voilà, bon, très rapidement, pour vous situer sur le sujet. Alors, le mode gothique d'expression architecturale va se stabiliser avec une image à une élévation à trois niveaux, qui est représentée, bon, on le voit relativement facilement dans la façade ouest, avec le niveau des portails, qui est un niveau obscur à la matière où les portes sont fermées, donc on ne passe pas avec de la matière. Un niveau semi-ouvert avec la rosace et les ouvertures qui se trouvent être dans les deux clochers. Et un niveau complètement ouvert avec l'air qui circule librement et tout ce qui passe avec le son des cloches. Cette vision ternaire, je peux effacer. On va effacer le côté le moins intéressant. Cette vision ternaire de développement est très importante parce qu'elle est directement héritée de la vision du monde classique et notamment exprimée à travers Platon, dans lequel l'homme et l'univers se résument à trois espaces. Le monde de soma, ou de la matière, le monde de psyché, et le monde du nous, ou de l'esprit. Donc, si vous voulez, corps, pour l'homme, matière, psyché ou âme, mais c'est aussi le monde de l'animation, et nous, l'esprit. Ou si vous voulez, le monde intelligible de Platon, par opposition au monde sensible.
monde intelligible, monde sensible.
L'énorme avantage de ce schéma, du point de vue de sa logique, c'est de proposer un intermonde qui permet au corps et à l'esprit de rentrer en relation. C'est-à-dire, générer un espace qui soit compatible avec ces deux modes d'existence, sans les exclure, mais en leur permettant de s'exprimer le plus librement. Il se trouve que cette perception-là, qui est aussi visible évidemment chez les néo-platoniciens et les alexandrins de l'époque ptolémaïque, va amener à l'idée, disons, à synthétiser l'idée de ce qu'est un temple, au sens large, en tant qu'espace de rencontre, en tant qu'intermonde, qui n'appartient pas à proprement parler au monde de la matière, dont il est séparé par une enceinte, par une géométrie, par une construction, mais qui n'appartient pas non plus complètement au monde de l'esprit. Une espèce d'espace intermédiaire qui permette l'heureuse rencontre. Cette heureuse rencontre, malheureusement si mal comprise par la vision devenue très dogmatique de la fin de l'époque gothique, qui va exclure le monde de l'âme, de la perception humaine de la vie, permettait justement la grande rencontre et la grande réconciliation entre l'esprit et la matière, sans diaboliser la matière et sans diaboliser le corps, qui du point de vue des classiques, évidemment, ne sont pas une manifestation de Satan, tel qu'il a été perçu un peu plus tard par, disons, la cristallisation du dogme religieux. Le Moyen-Âge gothique est justement une valorisation du corps en tant que moyen d'expression de l'esprit, c'est-à-dire une antithèse complète. Si, dans le monde monacal, on considère le corps comme inutile pour la contemplation, dans un idéal de vie d'action tourné vers le monde, le corps devient indispensable pour exprimer sa spiritualité. En tant que média, pas en tant que but, évidemment. Mais il faut domestiquer le corps, c'est-à-dire il faut lui permettre des conditions d'existence et des règles d'existence qui soient compatibles avec sa finalité spirituelle. Donc, évidemment, le terrain du combat, l'intermonde où tout devient possible pour pouvoir harmoniser le corps et l'esprit, c'est le monde de l'âme, c'est-à-dire le monde de l'imaginaire, le monde des symboles, le monde des images, là où les choses ne sont pas ni matérielles ni spirituelles, mais en train de naviguer entre les deux, et donc où tout est possible. D'où, évidemment, le rôle symbolique très important de la cathédrale en tant qu'espace de transmutation qu'elle va jouer dans la cité médiévale, puisque ça devient un lieu, on le verra un peu plus tard, mais où tout est possible. Dans le Moyen-Âge gothique, la cathédrale, on vient pour y manger, on vient pour y dormir, il y a un marché à l'intérieur, il n'y a pas de chaises dans la cathédrale gothique. Les chaises viendront bien plus tard. De temps en temps, la cloche sonne, un prêtre fait un office, on s'arrête, on écoute l'office et on continue à faire son marché, on rentre les animaux dedans. C'est un lieu de vie où réussissent à cohabiter en même temps, sans se déranger, vie matérielle et vie spirituelle. Voilà la finalité anthropogénétique de la cathédrale, c'est-à-dire un lieu où peuvent cohabiter les différentes dimensions de l'existence sans jamais se contredire et sans jamais se gêner. Mais pour ça, et j'arrive à la deuxième partie, il faut intégrer l'édifice dans une géographie sacrée, c'est-à-dire lui trouver un espace prédestiné de communication entre la terre et le ciel. Parce qu'on ne peut pas mettre un édifice ayant cette ambition n'importe où. Donc, évidemment, dans ces conditions, existe, depuis la plus haute antiquité, une conception de ce qu'est la géographie sacrée, c'est-à-dire, comme je viens de vous le dire, un milieu prédestiné à servir d'intermonde. La notion de géographie sacrée est aussi vieille que l'humanité. Depuis que l'homme existe et depuis les premières manifestations de religiosité, on trouve des milieux choisis pour leurs propriétés comme favorisant les relations de l'homme avec l'invisible. Ce qui est perdu, par contre, c'est cette science qui rend possible de les identifier et en même temps de les identifier, de les activer. Puisque la qualification d'un espace dans une géographie sacrée n'est pas spontanée. Elle est le résultat de la rencontre entre un milieu et ceux qui veulent l'occuper, le faire vivre et le développer. Autrement dit, si vous voulez, dans la science qui étudie la géographie sacrée, un lieu n'est sacré que quand il est consacré. Avant, il est un espace prédestiné, potentiel, mais pas forcément actif. Cette science-là est connue parfaitement des maîtres d'œuvre du Moyen-Âge. La construction des cathédrales, évidemment, va réutiliser des lieux d'anciens cultes, que ce soit des cultes, disons, qualifiés de païens ou pré-chrétiens, ou tout simplement d'autres constructions chrétiennes supplantées, démolies ou intégrées dans des constructions tardives. Mais pour pouvoir valoriser ces espaces, il faut bien évidemment être capable de les consacrer, c'est-à-dire de les activer. D'où l'existence, dans les textes transmis, des actes de consécration, dans lesquels je vous recommande un ouvrage très 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 précieux, pour moi en tout cas, qui est la symbolique du temple chrétien de Jean Hanni, qui est un trésor, qui est un vrai trésor dans la compréhension de ce qu'est la cathédrale et de comment elle fonctionne, dans lequel il va traduire la façon dont les rites de consécration de l'espace vont se produire et avec le déroulement logique, comment on passe de la consécration de l'espace à l'initiation de la construction, c'est-à-dire au début de la construction. C'est très important de le situer parce que la géographie sacrée n'est justifiée que par la sacralisation de l'espace. Alors, évidemment, nous, on a la chance de vivre à Lyon, ce qui, du point de vue de la géographie sacrée, je le confirme, est une vraie chance parce que on est dans un confluent déjà, donc on est dans la rencontre de deux formes d'énergie, de deux sources d'énergie qui sont les fleuves, et dans laquelle évidemment cette rencontre d'énergie ne peut qu'activer un centre de force très important qui sera concrétisé par, au début, la fameuse ville gauloise de Condat, qui se trouve être la Croix-Rousse aujourd'hui, si vous voulez, qui est à la convergence, puisque le confluent à l'époque gallo-romaine évidemment, était grosso modo au terreau, pour vous situer. La presqu'île ne s'est constituée par des alluvions qu'au fil du temps, mais le rocher sacré initial était Condat, c'est-à-dire la rencontre des deux fleuves. Deux fleuves dont le cours est perpendiculaire, qui plus est, ce qui donne une dimension très particulière à cette rencontre. Mais on ne va peut-être pas avoir le temps trop d'en parler aujourd'hui. La géographie sacrée, c'est donc la rencontre de deux espaces ou de deux choses qui vont permettre de rendre possible un échange. Voilà ce que c'est la géographie sacrée. Partout où deux forces se rencontrent, quelle que soit la forme de ces forces, la rencontre de ces deux forces préfigure un terrain de rencontre à d'autres niveaux. De tout temps, les confluents des fleuves étaient de cet ordre. Mais aussi, les pierres naturellement dressées, les arbres particulièrement volumineux ou particulièrement anciens, de façon générale, toute distorsion de la géographie qui représente la rencontre de forces devient un lieu prédisposé et donc activable en tant qu'espace sacré. Donc, si on regarde comment est construit notre pays, on va se rendre compte que des espaces sacrés, il y en a un certain nombre quand même. Hein. Et que, évidemment, à chaque fois qu'il y a cette potentialité, au fil du temps, au fil des ans, elle va être activée de manière quasi systématique. Et si vous regardez un peu en détail la plupart des grandes constructions médiévales, qui évidemment ont repris d'autres, pour certaines d'autres lieux de culte, on va y trouver des traces de rencontres, visibles pour certains ou invisibles pour d'autres, comme à Chartres, par exemple.
Qui est un cas un peu spécial. En effet, à Chartres, on se trouve avec, je ne sais pas si vous voyez bien du fond, parce que je suis désolé, l'image est petite, on se trouve ici avec un cours d'eau souterrain qui fait une boucle. C'est-à-dire que vous avez le plat au sol, l'entrée est ici évidemment, et suivant le parcours de Mondoy, qui est passé un point ici, il y a un cours d'eau souterrain qui correspond d'ailleurs à la présence d'un puits, ou même de deux puits. De mémoire. Et donc, la cathédrale se trouve être sur une espèce de nœud d'énergie constitué par le coude d'une espèce de rivière souterraine. Encore active aujourd'hui, hein. C'est pas, ça marche, mais ça fonctionne. Hein. L'édifice fonctionne en tant que tel. Donc, c'est un autre exemple de la rencontre entre des forces. C'est-à-dire, si un cours d'eau doit faire une boucle, c'est qu'il rencontre une résistance. S'il n'y a pas de résistance, il va tout droit. Donc, cette espèce de confrontation, de mise en présence de deux énergies contradictoires, va devenir une opportunité de création d'un espace sacré. Et, globalement, chaque fois que deux forces s'affrontent, et on va trouver cette image très très bien dans la plupart de la littérature médiévale, et notamment dans les romans associés au Graal, ou le fameux château de Tintagel, où se trouvait être présent à la fois le Graal, le roi Arthur et toutes les possibilités de développement, est construit sur une caverne où se battent de manière permanente deux dragons, où s'affrontent deux dragons. Cette idée d'ailleurs du dragon, très importante avec les cours d'eau, notamment Drac, la rivière, le Drac, hein, qui est un dragon, manifeste la présence d'une force, serpent terrestre ou serpent aquatique, et chaque fois qu'un dragon, dans cette logique-là, va se manifester, il représente une source de force et d'énergie que la consécration va domestiquer et canaliser, et donc verticaliser. Donc voilà comment comprendre la logique de ce qu'est une géographie sacrée. Deux forces mises en présence qui vont donc dégager un combat, appelons les choses par leur nom, que celui qui est capable de le domestiquer va transmuter et verticaliser cette énergie pour en faire un espace sacré. Alors, l'espace peut rester profane tout le temps, parce qu'il faut déjà découvrir, s'il n'est pas visible, que ce combat existe, hein, que cette énergie existe de manière, soit formelle parce qu'elle est matérialisée, soit informelle parce qu'elle n'apparaît pas dans les plans, disons, visibles. Mais il faut une certaine maîtrise et une certaine connaissance de ces lieux pour pouvoir les domestiquer, se les approprier et les convertir. C'est-à-dire changer la direction de la force. J'insiste sur cette idée de changer la direction de la force, parce que c'est la base même de l'architecture. Qu'est-ce que c'est que l'architecture, sinon une science qui permet de changer la direction des forces? Et quand on regarde une construction comme la cathédrale, la flèche qui se trouve à la croisée, à la verticale de la croisée, ici, est une espèce de concrétisation de la direction de la force. Dans une construction gothique, le centre dans lequel les forces convergent, c'est ce qu'on appelle la clé de voûte de la croisée. C'est-à-dire que, au milieu de l'édifice, il y a quatre piliers massifs, et tout tourne d'une certaine manière autour de ces quatre piliers massifs. Dès l'époque disons, du gothique lancéolé. Hein, donc c'est un mot qui est relatif à, au fenêtrage. Il y a trois, schématiquement, il y a trois époques dans le gothique. Lancéolé, rayonnant, flamboyant. Le gothique lancéolé fait référence à une position, une dimension particulière du fenêtrage à l'intérieur de l'édifice. Dès le début du gothique, donc, l'endroit où converge cette espèce de force de maintien, qui est comme un nœud qui tient tout, en quelque sorte, dans l'édifice, on va trouver un médaillon avec une dédicace. Si vous allez, par exemple, à Notre-Dame à Paris ou à Chartres, et que vous levez la tête au milieu de la croisée, vous allez voir apparaître, dans le cas de Notre-Dame, évidemment, c'est une Vierge, puisque c'est la dédicace de l'édifice, vous allez voir apparaître une figuration de la Vierge dans un médaillon qui est exactement dans la clé de voûte. C'est-à-dire que cette consécration de la clé de voûte résume à elle seule le centre de force descendante de l'édifice. Puisque là, tout l'effort converge vers le centre et il est diffusé à travers les piliers. C'est-à-dire que matériellement, l'effort est supporté par les piliers, mais du point de vue virtuel, l'effort, l'onde de forme, si vous voulez, elle passe par l'axe central à la verticale de la flèche, qui, exactement comme une espèce de paratonnerre ou de moyenne d'acupuncture terrestre, gigantesque aiguille d'acupuncteur terrestre, va implanter dans la terre l'énergie nécessaire à la consécration de l'édifice. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'autre clé de voûte qui se trouve dans le cercle absidial, dont la mission est tout autre, puisque du point de vue architectural, la force qui se dégage à la clé de voûte de l'abside est une force dirigée vers le haut. C'est la raison pour laquelle on met des arcs-boutants sur les côtés et derrière pour empêcher que l'édifice n'éclate vers l'extérieur. Donc si vous voulez, schématiquement, au milieu, l'édifice a tendance à s'écrouler vers l'intérieur et dans le cercle absidial et sur les côtés, il a tendance à s'ouvrir vers l'extérieur. Donc l'effort n'est pas du tout dirigé, la résultante de l'effort n'est pas du tout dirigée dans la même direction à la clé qui se trouve à la croisée et à la clé qui se trouve au cercle absidial. Pourquoi ? Tout simplement parce que les missions de ces deux zones d'un édifice ne sont pas du tout les mêmes, justement par rapport à la géographie sacrée. L'ancrage de l'édifice, c'est-à-dire la mise en route du pouvoir local dans l'endroit où se trouve la construction, il est là. Le maître d'œuvre a planté un clou, ici, un clou gigantesque, qui de toute façon est matérialisé au moment de la consécration de l'espace par un pieu ou par une colonne, qui évidemment disparaît après. Mais quand on va consacrer l'espace, non pas l'édifice, mais l'espace, on va planter un pieu. Je redévelopperai ça dans une des conférences suivantes. Mais l'idée, c'est fixer, on va fixer la sacralité du lieu. Cette sacralité du lieu étant fixée, l'espace qui est ici, c'est-à-dire la croisée, l'espace qui est carré, qui est contenu dans les quatre piliers, est une manifestation de la sacralité du lieu, mais pas du tout de la destination du lieu. La destination du lieu, c'est-à-dire l'offrande dirigée du bas vers le haut, elle est dans la clé du cercle absidial. Autrement dit, dans la construction, si je fais un schéma rapide, évidemment en relation avec ça, parce que c'est la même chose, hein, vous avez bien compris, on va voir le cercle absidial, la nef et le transept. Donc, le lieu où règne l'esprit, le lieu d'animation et le monde de la matière, schématiquement. Croisé avec, évidemment, ici, clé de voûte centrale, le fameux clou, le lieu de la dédicace, et ici, les, généralement, sept rayons, qui sont figurés par les sept images ou les sept vitraux qui sont associés aux sept épines de la couronne du Christ et à toute la symbolique associée aux sept ténères, qui sont aussi les sept couleurs, hein, évidemment.
Ici, une autre clé de voûte.
Le lieu de destination qui est ici, il est bien par la présence de l'autel qui logiquement devrait se trouver à la verticale de cette clé-là et pas ici, comme on le voit malheureusement dans certaines constructions. L'autel est bien le lieu où on va restituer l'offrande du bas vers le haut. Donc, logiquement, la force qui doit émaner de cet endroit est une force ascendante, ce qui est le cas matérialisé, évidemment de manière virtuelle, par la construction elle-même, puisque les efforts vont converger vers le haut. Alors qu'ici, les efforts vont descendre vers le bas parce que la mission de cet espace n'est pas du tout la même. Et si on complète ici par la présence du labyrinthe, présent dans la quasi-totalité des édifices gothiques, on aura compris comment fonctionnent les trois tables, la table ronde, la table carrée et la table rectangulaire, qui sont les trois symboles associés à la construction gothique, c'est-à-dire la fameuse table ronde qu'on va retrouver dans la chevalerie médiévale, évidemment, qui est la même chose, qui est le labyrinthe représentant les méandres de l'existence terrestre, la table carrée qui est la table de la discipline, de la mise en ordre, qui permet de fixer et d'asseoir les choses, et la table rectangulaire, qui est la table de l'offrande, qui permet aux efforts humains de servir d'offrande vers la divinité et de remonter vers le ciel. Donc voilà, très rapidement, comment associer la géographie sacrée avec l'espace sacré. Parce que vous voyez qu'on ne peut pas les dissocier. Une géographie sacrée ne se conçoit que parce qu'elle va consteller la Terre d'étoiles. Et qu'est-ce que c'est qu'une Terre constellée d'étoiles? Ça s'appelle Compostelle. La Terre parsemée d'étoiles. C'est-à-dire les chemins de Saint-Jacques. Qui n'est rien d'autre qu'une façon de parcourir les étoiles présentes sur la Terre, qui sont associées à une véritable carte du ciel sur Terre, avec toutes les constructions et tous les lieux de culte qui lui sont représentés. Puisqu'il s'agit bien d'une géographie sacrée, par une volonté de reconstituer le ciel sur la Terre. Je dis bien reconstituer le ciel sur la Terre, c'est-à-dire il y a une démarche délibérée, hein, qui n'est pas un hasard, qui n'est pas fortuite, de reproduire une carte du ciel sur la Terre avec des lieux privilégiés qui sont les lieux de culte et donc les espaces de transformation. Puisque on en parlera au fil du cycle de ces activités, mais évidemment, la cathédrale n'est pas qu'un espace pour le culte. La partie de la cathédrale dédiée au culte s'arrête ici. Tout le reste a une autre destination, qui est un espace de transmutation. C'est-à-dire un cadre privilégié pour amener l'humain à se rapprocher du divin. Voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. Je crois que je vous ai déjà bien rempli la tête, je m'en excuse, en essayant d'être le plus synthétique possible. Et je vais vous proposer, ben, tout simplement, d'approfondir avec des questions. Sachant que je ne vais pas faire les quatre autres conférences ce soir. Non, merci. Dans vos questions, ne m'en veuillez pas si je vous dis, je suis désolé, mais ça c'est un sujet qui va être traité tel jour ou tel autre jour. Mais en rapport avec le sujet de ce soir, avec grand plaisir, dans la mesure de mes connaissances, je réponds à vos questions.
Moi j'ai quelques questions.
Je vous en prie.
Pour commencer, il y a un trou, toujours, dans le passage du flambeau entre le compagnonnage romain et le compagnonnage du Moyen-Âge. On ne sait pas comment ça s'est fait, ça. Parce qu'avant, on sait, en gros, les Égyptiens, les Grecs, il y a eu le mélange, bon, avec Alexandre, ainsi de suite, et il y a Ptolémée, Alexandre, la bête en bibliothèque qui a permis donc, de faire le passage. Puis c'est revenu, les Romains avaient des techniques de construction, et non seulement des techniques, mais ils avaient aussi une architecture sacrée. Et ensuite, on passe au Moyen-Âge, mais on ne sait pas comment ça s'est articulé. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus?
Pas vraiment, parce que je suis très peu documenté sur les confréries et disons les confréries de métiers à l'époque romaine. C'est pas un sujet que j'ai étudié. Hein. Donc je peux pas vous raconter des histoires, je peux pas vous répondre là-dessus. Par contre, il y a une certaine logique dans la persistance du mode de maintien de la connaissance à travers le monastère. Il y a une continuité quasi totale dans le christianisme entre le christianisme romain et le christianisme médiéval dans le monastère, qui, de mon point de vue, est le seul lieu où à la fois le savoir-être et le savoir-faire vont être conservés. Pourquoi? Parce que la philosophie des classiques, et notamment platonicienne et aristotélicienne, va être conservée tout le temps dans les monastères. Et disons, le fil conducteur au niveau des mentalités d'une époque se traduit par une vision métaphysique de l'existence. La continuité ne se fait jamais par des gestes matériels. Pourquoi? Parce que c'est matériellement pas possible. Un savoir-faire se perd. C'est normal. C'est humain. Et à part ça, les compétences et les moyens de les mettre en œuvre peuvent disparaître. Ce qui a été le cas. La maîtrise de l'acier, du fer, avait quasiment disparu dans le Moyen-Âge obscur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le métier de forgeron était un métier quasiment oublié dans sa conception générale. Et c'était très difficile de remettre en œuvre tout ça. Il a fallu attendre l'époque de Tolède et le retour, ou plutôt l'arrivée du monde arabe en confrontation avec l'Occident pour redécouvrir l'alchimie des métaux, qui était oubliée, alors qu'elle était parfaitement maîtrisée par les Romains. Et par les Celtes aussi. Donc, mais aussi les Romains, parce qu'ils n'étaient pas idiots, c'était gallo-romain, hein, ils ont récupéré tout ce qu'ils ont pu. Donc, ce sont les structures métaphysiques conservées dans les monastères qui ont permis de remettre en œuvre le savoir-faire. On peut détruire les moyens techniques si on ne détruit pas l'architecture métaphysique qui les sous-tend. Et l'architecture métaphysique qui sous-tendait ces moyens techniques, il y a une continuité constante, totale. Donc, même si le savoir-faire a été oublié, les causes qui ont engendré ce savoir-faire ont été parfaitement conservées. Je ne vois pas d'autre explication possible.
Parce que quand vous dites, par exemple, l'histoire de Platon et Aristote, bon, de ce que l'on connaît, c'est que, par exemple, Augustin était platonicien, bien qu'il n'y avait pas tellement lu. Bon. Mais ensuite, ça a disparu, bien sûr, et c'est revenu, justement, par Averroès, Maïmonide.
Et puis, c'est plutôt Aristote, Averroès.
Eux, ils ont choisi plutôt Aristote, ouais, bien sûr, parce qu'il y avait un choix à faire, tout ça. Mais, ça ne s'était pas transmis dans le monastère du Augustin.
Si. On peut le mesurer ça à travers
Mannequin, il s'est avéré.
Absolument. Mais le choix, pour situer rapidement, hein, le choix de l'aristotélisme correspond parfaitement à un idéal d'action. Et la logique platonicienne a un idéal de contemplation, pour vous situer par rapport aux deux périodes. C'est-à-dire, la résurgence platonicienne, elle est romane. Et la résurgence aristotélicienne, elle est gothique. C'est la pensée aristotélicienne qui gouverne le monde gothique parce qu'il répond à cette espèce de perspective physique d'expérience. Il y a pas le, dans la vision aristotélicienne, il n'y a pas le clivage entre le monde sensible et le monde intelligible, et il n'y a pas cette espèce de perception d'une illusion du monde sensible, qui est typiquement platonicienne, et qui va, métaphysiquement, ouvrir les portes de la contemplation. Donc, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, si vous voulez, il n'y a pas, à proprement parler, à ma connaissance, de continuité directe du savoir-faire métier. C'est la raison pour laquelle on perd énormément sur à la fois la construction en elle-même, puisqu'on oublie tout de l'architecture. Les Romains ont fait le pont du Gard, en fait. Des choses qui sont des constructions phénoménales. Mais on ne sait plus faire. On a oublié complètement le savoir-faire. Mais aussi parce qu'il n'y a pas la nécessité. Il faut l'émergence d'une forte nécessité pour retrouver du savoir-faire. L'artisanat ne se développe qu'avec le commerce, dans la réalité. L'artisanat local, il est typiquement rural. Hein. Entre le 3e siècle et le 8e ou 9e siècle, l'artisanat est complètement rural. Il n'y a pas de nécessité d'échange. On fait de l'artisanat pour survivre. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci de votre participation.